Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Bonsoir tout le monde. J'ai enseigné à des ados toute la semaine et du coup je suis très content qu'il y ait plein de gens qui soient là calmement devant moi. Je ne vois pas de ciseaux voler à travers la salle. Donc non, plus sérieusement, merci d'être là ce soir. Merci d'accorder un temps dans votre semaine, dans votre dimanche pour venir ici. Que ce soit la première ou la 200e fois que tu es là, merci d'être présent ce soir. Ok, donc brièvement, donc je m'appelle Sébastien, je suis marié à Manon, qui est ici devant. Je ne sais pas, ça fait depuis le début qu'on vient à Home et qu'on s'investit de diverses manières. Et voilà quoi. Donc, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter, à part que voilà, je suis architecte de formation. Là, je me lance dans l'enseignement. Ma femme travaille dans la culture. On vit à Sougar, donc les rageux diront qu'on est des bobos, et je vous donnerai raison, honnêtement. Donc voilà, vous auriez raison. Très bien, donc, assez parlé de moi, on est dans une série sur les paraboles de Jésus. Et du coup, on a abordé plusieurs paraboles depuis 3-4 semaines. Normalement, je devais prêcher il y a 2 semaines. Mon corps en a décidé autrement. Et du coup, j'étais un peu malade. Donc là, je suis avec vous ce soir. Je m'excuse déjà d'avance si je tousse un petit peu. Ce n'est pas encore totalement parti. Bref, donc les paraboles de Jésus. Les paraboles, je lisais un auteur derrière moi, Dallas Willard, si vous connaissez. Il disait, c'est un génie. Jésus est un et était vraiment la personne la plus intelligente sur Terre. C'est un truc de fou que quelques phrases nous soient restées jusqu'à aujourd'hui et soient toujours sujettes à interprétation et nous enseignent toujours des choses. Et du coup, c'est des histoires, c'est des invitations à la réflexion, c'est des questionnements qui nous obligent à nous positionner dans notre vie, dans notre cœur. Et du coup, Jésus, il utilise souvent cette manière de faire. Il ne doit pas dire « tu dois pas », ou très rarement. En fait, ces paraboles sont des questions pour nous. Et puis, ce soir, je vais vous parler d'une parabole en particulier qui se trouve dans Matthieu 7, à la fin de Matthieu 7. Donc, rapidement pour le contexte, c'est une partie dans la Bible, dans le livre de Matthieu, qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Donc, c'est les chapitres 5, 6, 7 du livre de Matthieu. Et puis, en gros, ça ressemble à la vie du chrétien. Jésus nous invite à le suivre, à l'imiter, à le suivre dans le chemin et à l'imiter toute notre vie. Et du coup, il explique ce que c'est de vivre dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire la réalité de sa présence sur terre. Et il va aborder comme ça plusieurs sujets. Et du coup, devant une foule de personnes, et là je vous fais un bref résumé exhaustif de ce qu'il a dit dans les chapitres 5 à 7, donc il va parler des béatitudes au début, « Heureux les pauvres, car vous serez... » riche en esprit. Et il continue plusieurs fois, il parle du fait d'être sel et lumière, de notre relation à la loi, à la colère, à la convoitise. Il nous parle de l'engagement, de l'amour dans le couple. Il nous parle d'aimer ses ennemis. Il nous parle de la manière de donner, de prier. Il va aussi prêcher sur le jeûne, l'argent, l'inquiétude, les accusations, la détermination aussi qu'on peut avoir, le chemin vers le ciel. Il va parler de porter des fruits et finalement de construire sur le rocher. Et je vais vous parler de cette dernière partie, construire sur le rocher. On est dans une série justement qui s'appelle « Du cœur aux mains ». Et j'ai envie de vous dire, les deux sont liés. Nos mains ne peuvent pas faire des choses qui n'obéissent pas au cœur. Tout comme notre cœur ne va pas choisir des choses de manière indépendante de la réalité extérieure. Les deux sont liés. Ce qu'on a dans notre cœur sera automatiquement exprimé par nos mains à l'extérieur. Et d'une certaine manière, c'est ce qui se passe dans Matthieu 7, dans la parabole que Jésus dit à une foule de personnes. Du coup, on va la lire ensemble. Et avant que je lis ça, honnêtement, quand j'ai choisi... Cindy m'avait écrit pour prêcher. Et puis elle me dit, bah voilà, il y a ces dates de dispo. Finalement, j'ai choisi le moment où ça m'arrangeait le mieux. Je n'ai pas trop regardé au passage que c'était. Et puis ensuite, en lisant, j'étais là, purée, c'est chaud quand même. Là, en fait, j'ai pris un passage assez difficile. C'est un avertissement aux chrétiens. Ce n'est pas juste quelque chose qui s'adresse à tout le monde. En fait, c'est profond et ça va chercher très loin. Donc, ce n'est pas forcément confortable. Mais je pense qu'on a besoin de l'entendre passer littéralement la parole de Jésus. Ok, donc Matthieu 7, versets 21 à 27. Je lis, et ça va s'afficher normalement ici. Donc 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le sermon sur la montagne s'arrête ici. La fin de Matthieu 7, ça explique juste que la foule était impressionnée par l'autorité de Jésus. Et puis ensuite, on continue avec Matthieu 8, des histoires de miracles, de guérison. Probablement un autre moment. Matthieu nous retranscrit le sermon sur la montagne en finissant par ça. Donc c'est important. Les versets 21 à 23, donc il y a comme deux parties de ce que je viens de vous lire, les versets 21 à 23, on parle de personnes engagées. On ne parle pas juste de personnes random qu'on croise dans la rue. On parle de chrétiens qui savent de qui ils parlent. Ils parlent de Jésus, c'est des gens engagés. Il dit trois fois dans le verset 22, « Par ton nom ». Donc, c'est quelqu'un qui s'identifie probablement comme disciple. Et ensuite, Jésus lui dit, « Je ne t'ai pas connu ». Ça, c'est dur. Ça ne veut pas dire que il ne le connaît pas, il ne savait pas ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait jamais entendu parler de lui. Dieu est partout. Il connaît tout de nous. Mais c'est connu dans le sens comme c'est utilisé au tout début de la Bible, dans la Genèse. Et Adam et Ève se connaissent. C'est presque un euphémisme pour dire qu'ils ont eu des relations intimes. Dans ce contexte-là, ça veut juste dire que Jésus nous connaît intimement. Ou pas. Et dans ce cas-là, ça veut dire que nous n'avons pas de relation intime avec Jésus. Qu'on peut dire le discours que l'on tient peut ne rien avoir à faire avec ce qu'on vit intérieurement. Et ça, c'est une réalité intense. Évidemment, Dieu connaît nos cœurs et nos pensées, mais nous, on peut choisir de montrer nos cœurs et nos pensées, de les soumettre entièrement à Dieu. Et Dieu rejette les supplications de ces personnes en disant qu'il ne les connaît pas. Ensuite, il parle de cette métaphore d'une maison bâtie sur le sable et une maison bâtie sur le roc. Les deux vont ensemble. Donc, en fait, il explique une même réalité à travers deux manières différentes. Il y a un contraste entre celui qui obéit, qui est construit sur le roc, et celui qui désobéit, l'homme fou, qui est construit sur le sable. On parle du premier qui construit sur la pierre, Petra, et puis l'autre qui construit sur le sable, Amman. Amman, d'ailleurs, c'est la capitale de la Jordanie qui tient son nom du sable. Et en fait, ici, il dénonce les hypocrites. À ce moment-là, on sait que Jésus, il est entouré d'une foule. Et dans cette foule, évidemment, il y a plein de gens différents. Et puis, il y a notamment certaines personnes, à cette époque-là, qui portaient le nom des maîtres de la loi. Les maîtres de la loi, ils sont souvent critiqués par Jésus, et férocement. Quand il parle de l'homme hypocrite, il fait souvent référence à ces personnes-là. Hypocrite, aujourd'hui, on l'entend un petit peu comme « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». C'est-à-dire que c'est comme si notre attitude n'est pas cohérente avec ce qu'on dit. Et hypocrite, au sens où c'est écrit en grec dans ce passage-là, c'est « Hippocrates », qui vient du grec, qui veut littéralement dire « acteur ». Donc pas un acteur, celui qui a une action noble, mais un acteur, celui qui joue sur une scène pour comme distraire d'autres personnes. Okay ? Et il y avait le théâtre à l'époque, donc évidemment, cela fait référence à ces acteurs-là. Et en fait, c'est des personnes qui agissent de l'extérieur. On se dit, ouais, ils ont raison, ils font les bonnes choses, ils donnent leur dîme, ils font attention aux pauvres, ils vont au temple tous les jours, ils prient, etc. Mais dans leur cœur, il n'y a pas de soumission à Dieu. Il n'y a pas d'amour. De l'extérieur, ils ont l'air d'être similaires aux gens consacrés. Les maisons sont similaires, mais les fondations ne sont pas les mêmes. Les deux se ressemblent, mais la réalité profonde de leur cœur n'est pas la même. Ensuite, on a le jugement. Il y a un débat théologique un peu sur est-ce qu'on parle de la fin des temps ici ou des défis dans la vie. Je ne suis pas théologien, donc je laisse ce débat-là aux experts. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas envie, quand on entend cette parole, d'être la personne qui construit sur le sable. Ici, Jésus nous invite clairement à être la personne sage. Et quand on parle de la tempête, des rivières qui débordent, il faut bien s'imaginer que pour l'humanité entière, jusqu'en 1945, c'était plus ou moins le seul narratif qui faisait terriblement peur. Parce qu'on ne peut rien faire contre l'eau. Et quand je dis 1945, c'est parce qu'il y a eu la bombe atomique après. Mais du coup, pour l'équivalent de ces personnes-là, à cette époque, c'était l'équivalent d'aujourd'hui pour nous, la bombe atomique. C'est, il n'y a rien qui résiste. Et pourtant, Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à avoir des fondations. Ok, donc ça, c'est pour le passage, en tant que tel. Et maintenant, je vais parler en trois parties. La première sera un peu plus courte. Les deux premières seront un peu plus courtes et la troisième sera un peu plus cossue, on va dire. Ok. Donc, la première question que je vous poserai ce soir, c'est « Quand suis-je un acteur de ma foi ?» Et ici, c'est « acteur » plutôt dans le sens négatif. Ce n'est pas celui qui agit pour sa foi, c'est celui qui fait du théâtre. Donc ici, on pourrait parler des mêmes apparences. Peut-être il y a des gens qui disent que Jésus est Seigneur, etc. Ils le proclament, ils le disent de manière émotionnelle. Mais pourtant, les fruits ne suivent pas. Et peut-être que des fois, on se fait avoir nous-mêmes, on remarque, on lit notre Bible, on écoute la louange, peut-être on va à l'église, mais au fond, on a toujours de l'amertume dans notre cœur. Et ici, Jésus dénonce les gens qui ne font rien pour travailler ça. En fait, ce qu'il dénonce, c'est les gens qui utilisent le nom de Dieu en vain, qui disent « je suis chrétien », mais concrètement, dans ma vie, je ne fais rien. C'est une question d'amour ici. Est-ce qu'on fait des choses cohérentes avec l'amour que l'on porte pour une personne ? Moi, j'aime Jésus, j'essaie de vivre comme chrétien, petit Christ littéralement, à imiter Jésus. Tout comme j'aime ma femme, je suis mari de ma femme. Mais si je disais tout le temps à ma femme, Manon, je t'aime, et que je suis toujours comme ça, dans le canapé, tranquille, à dire je t'aime, Manon, t'sais. Mais que je ne fais rien pour elle. Ce n'est pas cohérent. On a un sujet de débat récurrent chez nous. C'est qui sort le compost ? Il est sur la terrasse comme ça. Donc, il y a toujours des... Et en été, en plus, c'est un peu plus chaud. Donc, c'est aussi plus difficile de sortir le compost. Il faut descendre deux étages et tout. Voilà, une vie difficile. Et puis, du coup... C'est presque une preuve d'amour pour l'autre qu'on descende le compost. Okay, c'est-à-dire qu'on fait un effort pour l'autre. Mais si on est juste à dire à l'autre « je t'aime » et puis l'autre « ouais, merci, merci, mais fais quelque chose quand même, s'il te plaît. » Nos actions doivent être cohérentes avec ce qu'on vit, ce qu'on exprime, avec nos discours. Professer la foi en Christ si elle ne s'incarne pas dans la réalité, est fausse et morte. On utilise le nom de Dieu en vain. En fait, ce que Jésus nous enseigne par là, c'est que des fois, ça nous fait peur de creuser des fondations. On a envie d'aller rapidement. Peut-être d'appartenir à des personnes où on se dit « Ah bah tiens, l'église, ça a l'air sympa, les gens ont l'air sympas, je vais faire un peu les mêmes choses qu'elles. » Et ok, très bien, en vrai, venir à l'église, prier, écouter de la louange, tout ça, c'est des bonnes choses. Ok. Mais c'est pourquoi est-ce qu'on le fait? Et c'est ça qui, au fond, est le plus important. Et je vous poserai rapidement ces quelques questions. Est-ce que je suis irrité par l'enseignement de Jésus? Si c'est le cas, pas de problème. Mais sache juste que tes fondations sont faibles, si c'est le cas. Est-ce que je vais à l'église pour faire plaisir à certaines personnes? Si c'est le cas, pas de problème. Mais sache que tes fondations sont sur le sable. Est-ce que j'obéis à certains commandements dans le but de blanchir ma conscience, comme pour me sentir mieux après? Alors à ce moment-là, c'est probable que tes fondations soient faibles. Donc, moi, je vous poserai cette question, et si vous me connaissez un peu, souvent, je pose un peu une question comme ça, puis ensuite, je laisse du silence, juste pour qu'on puisse réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, concrètement? Donc, je vous poserai cette question. Est-ce que je ressens un manque de fondation dans ma vie? Quelque chose que je fais pour entrer dans le moule, pour plaire aux autres ou à moi-même. Ok, deuxième partie. Dans quel domaine de ma vie pourrais-je devenir bâtisseur? Donc, à quoi ressemble concrètement mon action dans le royaume de Dieu? En fait, ce qu'on voit dans le passage qu'on a lu avant de Jésus, c'est que ce n'est pas ceux qui crient sur les toits qui sont de vrais disciples. C'est ceux qui suivent vraiment Jésus. Et ce que les fondations dans la pierre nous disent, c'est que ce n'est pas facile. Ça prend du temps. Creuser la pierre, ça prend du temps. Il ne faut pas être impatient. Et les paresseux, ils veulent toujours être plus rapides, rapidement construire sur le sable. Et pourtant, le Saint-Esprit a le temps. Il n'est pas pressé. Et on a besoin, je crois profondément, de se laisser convaincre par le Saint-Esprit, encore plus dans une société qui va toujours plus vite, qui demande toujours plus de rendement, qui demande d'être toujours plus productif pour telle et telle chose, toujours plus performatif pour telle et telle chose. N'appliquons pas ce schéma à notre propre foi. Ne mesurons pas notre foi à la productivité qu'elle pourrait avoir. Mais pensons à notre cœur, comment le Saint-Esprit peut nous convaincre. Et peut-être, comme chrétien, si on est honnête, on doit faire un peu le deuil de certaines choses. C'est OK. Mais c'est pour avoir des meilleures choses en retour. Je crois vraiment. En fait, le sage, celui qui construit sa maison sur le roc, il est conscient de ses péchés. Et ça prend du temps, ça mature. Et des fois, on entend des histoires de personnes qui, à 25 ans, ont déjà vécu des trucs de ouf avec Dieu. Et on se dit, mais purée, moi j'ai 30 ans, 40, 50, 60, 70 ans, et pourtant j'ai l'impression d'être ridicule par rapport à ce que cette personne a fait. Et on se compare. Et on se dit, mais qu'est-ce que je suis moi? Et en fait, je crois, Dieu nous donne les exemples plusieurs fois dans la Bible, que ça prend du temps de maturer, ça prend du temps de creuser les fondations. Pour rappel, Abraham, père d'Israël, a eu son premier fils à l'âge de 86 ans. Moïse, quand il est devant le buisson ardent, on imagine qu'il avait environ 80 ans avant de commencer à sauver l'Égypte. Joseph, gouverneur en Égypte, a environ 40 ans. Paul, entre le moment où il a eu la révélation sur le chemin de Damas de Jésus qui se montre littéralement à lui, moi j'ai envie de ça, lui, il est tellement convaincu. Et puis, le moment où ça paraît assez important qu'on écrive ce qu'il a vécu comme histoire à Corinthe, à Rome, etc., il y a des années de silence. On les estime entre 12 et 15 ans. Ça, c'est des moments où ces personnes, elles ont dû creuser dans le roc, patiemment, mettre les fondations, pour que quand la tempête arrive, elles tiennent solidement. Et ce qui est terrible avec les fondations, c'est que ça ne se voit pas. On a l'impression peut-être que les autres vivent des choses extraordinaires et puis que nous, on est là, on vient peut-être tous les dimanches à l'église et puis on se dit, mais en fait, moi, je vis quoi ? Peut-être, effectivement, il y a un peu de paresse chez certaines personnes. Mais peut-être aussi que ça prend simplement du temps à ce que le Saint-Esprit nous creuse, vienne nous rendre plus aimants. Et des fois, on a tendance justement à vite s'arrêter soit aux bonnes choses, soit aux mauvaises choses, mais qui se voient. Et peut-être vous vous dites, mon péché, c'est addiction à telle chose, ou j'ai insulté telle personne alors que j'aurais pas dû, je sais pas. Tout ça, c'est des choses qui se voient. Mais ce que Jésus nous enseigne, c'est plus dans le cœur. Est-ce que peut-être vous n'êtes pas du tout colérique de l'extérieur, mais qu'au fond, vous retenez constamment votre colère, et que ça vous fait du mal? Peut-être c'est l'avarice. Peut-être c'est le désir. Vous n'êtes jamais satisfait, jamais contenté, mais bon, pour faire partie du lot, on ne va pas trop le dire. Et ça, c'est des points durs dans notre vie. On doit constamment travailler ça. Et avec le Saint-Esprit nous aide profondément là-dedans, je crois vraiment. Et en fait, on a le temps. Prenons le temps avec Dieu de faire ça. Ne précipitons pas à construire des choses que nous ne maîtriserons pas. Et du coup, moi, je vous poserai la question. Quels sont les points durs dans vos vies? Ceux qui méritent d'être brisés afin d'y poser des fondations solides. Est-ce que c'est l'insatisfaction constante, comme je disais? Est-ce que c'est l'impatience? Moi, je sais, je suis quelqu'un de terriblement impatient et je dois toujours faire attention. Peut-être c'est l'orgueil et d'autres choses. Et du coup, je vous laisse de nouveau rapidement 30 secondes avec cette question. Quels sont les points durs de ma vie qui m'empêchent de creuser des fondations ? Ok, du coup, troisième partie. Qu'est-ce qui me motive à bâtir? Et peut-être, ce que je viens de dire là, ça vous met la pression, ça vous génère de l'anxiété. Vous vous dites, purée, mais ok, bah, faut que je commence à faire, je sais pas, des biscuits pour mes voisins. Faut que je commence à donner plus souvent aux mendiants, à pardonner à ma famille, j'en sais rien. Mais si c'est la peur ou l'anxiété qui nous motive à ce moment-là, on ne prend pas le bon chemin. Et c'est dommage. En fait, je crois que Jésus nous invite profondément à être en relation d'intimité avec lui. C'est ce qu'il dit en creux dans les trois premiers versets. « Je ne vous ai pas connu. » c'est-à-dire je n'ai pas été en relation intime avec vous. Alors, soyons en relation intime avec lui par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réalise aussi des miracles, clairement, et je crois toujours aujourd'hui, des guérisons, des choses puissantes, fortes, qui guérissent littéralement notre corps. Je crois que c'est encore capable aujourd'hui. Mais à aucun moment dans la Bible, il y a quelqu'un qui vient vers Jésus et qui lui dit « guéris-moi de l'égoïsme ». Et ensuite, il est guéri de l'égoïsme et puis il repart tranquille. Non. En fait, ça ne se passe pas comme ça parce que Jésus, il veut que notre cœur soit travaillé, que ça soit notre responsabilité de constamment creuser, aller vers lui. Et tout ça, ça nous fait avancer sur un chemin. Et pour avoir l'idéal de Jésus en tête, on a besoin de vivre une vie d'amour, une vie de sagesse. Que je crois vraiment les meilleures actions qu'on fait, c'est celles dont on n'est même pas conscient. Tellement notre vie est animée par l'esprit qu'en fait, on ne s'en rend même pas compte. On devient généreux sans s'en rendre compte. On devient bienveillant, à l'écoute, joyeux sans s'en rendre compte. Simplement parce que c'est des fruits de l'esprit. Okay ? Et en fait, ces questions-là de c'est quoi la pratique, c'est quoi le chemin, comment est-ce que je deviens plus comme Jésus, ça fait 2000 ans que des chrétiens se la posent. Et puis, je trouvais intéressant, là, j'ai découvert une étude il n'y a pas longtemps qui a été faite aux États-Unis, encore une fois, il y a plusieurs années. Et c'est un sondage sur des milliers de chrétiens qui a été fait pendant des dizaines d'années. Et du coup, c'était pour voir dans quelle étape sont ces personnes dans leur vie avec Jésus, dans suivre leur chemin, suivre le chemin de Jésus. Et du coup, ils ont identifié 6 étapes. La première, c'est simplement la reconnaissance de Dieu. Ok, donc Dieu existe, et moi je ne suis pas assez bon pour mériter son amour, et j'ai besoin de lui. Reconnaissance de Dieu. Deuxième, la vie de disciple. En fait, tout seul, j'arrive à pas grand-chose. Il faut que je m'entoure d'autres qui me change, puis qu'on puisse grandir, et puis qu'en fait, le pécheur que je suis ne reste pas, mais je continue à évoluer. Et ensuite, la troisième étape, c'est une vie productive, donc qui porte du fruit, qui porte un fruit sain, et qui fait du bien, qui bénit d'autres personnes. Donc 6 étapes. Là, je suis à la troisième. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que l'énorme majorité des chrétiens n'arrivaient pas à aller au-delà de la troisième. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens prient, ils reconnaissent la puissance de Dieu, ils vont à l'église, ils s'entourent de disciples, ils donnent, c'est-à-dire qu'ils cherchent à porter du fruit, mais ils s'arrêtent là. Et c'est comme si on n'arrivait pas à aller plus loin. Et eux, ces scientifiques, ces sociologues, ils ont identifié 3 étapes suivantes qui sont vraiment importantes. C'est le voyage intérieur. Quelles sont mes spécificités? Où est-ce que j'ai besoin de guérison dans ma vie? Et ça prend du temps, c'est les fondations. Ensuite, la cinquième étape, c'est la découverte du sens ou le voyage extérieur. Comment est-ce que j'arrive à bénir les autres, à part faire des bonnes actions? Mais qu'est-ce qui, dans l'identité que Dieu m'a donnée, dans mon appel, qu'est-ce qui fait du sens autour de moi? Et la sixième, c'est une vie d'amour et de sagesse, où en fait, on arrive à faire des bonnes actions sans forcément même se rendre compte. On arrive à devenir patient, marcher au rythme de l'amour. Moi, j'aspire à ça. J'espère que vous aussi. Mais en fait, ça vient vraiment dans une réelle pratique de l'intimité avec Dieu. Et du coup, ce shift de cette quatrième étape, ce voyage intérieur, de checker notre cœur, d'aller au-delà de la productivité, au-delà de mesurer est-ce que ce que je fais est bon ou mauvais, il y a une chose que nous, les protestants évangéliques, ont un peu oublié, et j'aimerais insister là-dessus ce soir, c'est la confession. C'est une pratique peut-être qu'on associe facilement aux catholiques, mais si la pratique depuis 2000 ans, c'est probablement qu'elle a fait ses preuves. Et en fait, La confession, c'est la confession de nos péchés. C'est ce qui prend du temps à creuser. Et ce n'est pas plus on avance dans notre vie de chrétien, moins on a de choses à confesser. Bien au contraire. Plus on avance dans notre vie de chrétien, plus on se rend compte qu'on est pécheur. Et qu'on a besoin de dire des choses qui sont mauvaises, qui se passent dans notre cœur. Et peut-être, ce soir, tu as un problème avec le terme péché. Si tu viens d'un milieu un peu très conservateur, des fois, ça a été utilisé pour culpabiliser les gens. Et peut-être que ça te paraît totalement abstrait, et puis que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais péché, il faut l'entendre comme manquer la cible ou faire un faux pas. Ça veut littéralement dire ça. Et puis de nouveau, si tu es habitué aux églises évangéliques ou comme ça, on a été habitué à voir ce paradigme comme innocent, coupable. Il y a comme toujours une dualité. Soit on est innocent, soit on est coupable. Coupable, c'est le péché. Et que du coup, Dieu a une loi morale devant laquelle on est coupable, et notre espoir se trouve dans le pardon de Jésus-Christ. C'est souvent l'évangile comme il est présenté. Et je pense que c'est juste, mais ça serait réducteur de le voir juste à ce niveau du paradigme coupable-innocent. Et évidemment, ça en fait partie. Mais le péché, en fait, c'est la déformation de notre âme. C'est comme une maladie en nous. Et ça nous empêche d'évoluer. Et du coup, si on garde cette dimension de juste coupable-innocent, on perd une grande partie de ce que la Bible enseigne. On pourrait voir d'autres paradigmes, notamment honneur-honte. La honte, ça fait partie du péché, l'honneur, ça fait partie du royaume de Dieu. La puissance et la peur. La peur nous cache et la puissance de Dieu nous établit. C'est aussi cette logique de propre et souillé. Jésus nous lave de nos péchés. Aussi cette question d'appartenance et de perte. Soit on appartient, soit on est perdu. Aussi cette notion de paix et de chaos. Le chaos, c'est le péché. Et la paix, le shalom, c'est être avec Dieu. C'est aussi cette notion d'espoir et de désespoir. Je dis tout ça pour qu'on se rende compte que non seulement c'est notre péché à nous, mais peut-être c'est aussi le péché d'autres qui nous amène dans le péché, où on manque la cible. Peut-être c'est même pas directement notre responsabilité. Peut-être il y a des situations qui ont fait que à l'école, à l'âge de 10 ans, vous avez été rejeté, et puis à 40 ans, en fait, c'est toujours pas parti. Est-ce que c'est de votre faute? Pas forcément. Est-ce que c'est un péché duquel donc votre âme est déformée qui vous empêche d'avancer dans la vie? Oui. Et Dieu veut guérir ça parce qu'il est amour. Donc, c'est simplement une invitation à sortir de ce paradigme culpabilité-innocence. Et pour ça, la confession est extraordinaire parce qu'elle permet de mettre en lumière. Elle permet, avec des personnes bienveillantes, accueillantes, qui ont le cœur, qui ont vraiment l'écoute, qui vous connaissent, elle nous permet d'avancer. Et ce n'est pas juste penser des fois « Oh, j'ai fait une mauvaise chose, pardonne-moi Seigneur. » Mais des fois, rien que l'effort de mettre des mots sur nos pensées, purée comme c'est difficile. Les pensées, c'est un peu abstrait, mais quand on voit des mots concrets devant nos yeux, ça devient plus concret. Et ça fait un peu plus peur, des fois. Ça demande du courage. Et ce que je veux dire par là, c'est que la confession, je pense qu'il y a une invitation profonde à ce que l'on fasse ça pour éviter de devenir des hypocrites, pour construire sur le rocher et pour après suivre l'exemple de Jésus. Et là, pour gentiment finir, je vais lire une relativement longue citation de John Mark Comer, qui est un auteur qu'on aime beaucoup ici. Moi, il m'énerve parce qu'il est juste trop bon. J'ai envie de tout citer ce qu'il fait, ce qu'il écrit. Mais du coup, là, je vous ai choisi et traduit un passage. Ces livres ne sont actuellement, je crois, pas en français. Et du coup, il dit, par rapport à la confession, donc, le salut ne consiste pas seulement à se retrouver du bon côté de la miséricorde de Dieu par l'acquittement des péchés. Il s'agit de guérir son âme par l'amour de Dieu. Ironiquement, le même péché qui nous empêche d'avoir une relation avec Dieu ne peut être guéri que par Dieu. Là encore, nous devons être sauvés. Et le début de notre salut et de notre guérison est ce que les chrétiens appellent la confession. La confession est une pratique essentielle de la vie du chrétien. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas de se flageller en public. Il s'agit de nommer courageusement sa blessure et sa faute en présence d'une communauté aimante qui chemine ensemble vers la guérison. Il ne s'agit pas seulement de confesser ce qui est vrai, qui vous êtes, qui est le Christ et qui vous êtes vraiment dans le Christ. Il s'agit de sortir de la cachette et d'accepter, de laisser derrière soi toute honte. La confession est notre rôle dans la lutte contre le péché. Dieu est le médecin, nous sommes le patient. Tout ce que nous pouvons faire, c'est mettre notre péché dans sa lumière. Son travail consiste à s'occuper de notre péché. Notre travail consiste à confesser nos secrets. Il s'agit de vivre d'une manière ouverte, vraie et mise à nu devant Dieu dans la communauté. Ce dont on parle là, c'est une direction. Et je crois que la vie du chrétien, c'est important qu'on puisse la voir comme une direction. Ce n'est pas la perfection. Pas la perfection. La vie du chrétien, c'est une direction. Je reconnais mon cœur que je suis un pécheur et je cherche à obéir. Donc, pour finir, peut-être je dirais que le plus important, c'est notre relation, notre intimité avec Jésus. Et que son amour a bien plus de valeur que toute autre chose, même le regard des autres. Du coup, question très large, mais pour finir, comment vais-je continuer à être un disciple? Qui va m'aider à construire ma maison? Avec qui vais-je me confesser peut-être? Je vous ai parlé de comment Jésus a fini son sermon sur la montagne. Mais il le commence aussi en disant « heureux les pauvres ». Et quand il dit « heureux les pauvres », c'est, on ne parle pas de manière pécuniaire ou financière. C'est heureux ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont pas de richesse. Heureux ceux qui sont humbles d'une certaine manière. Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Jésus. Et peut-être ce soir, vous vous dites, ah ben, peut-être je suis un peu moins chrétien que ce que je pensais. Peut-être que j'ai besoin de confesser certaines choses. Peut-être que j'ai besoin encore de mettre à la lumière, épurer comme c'est difficile, mais comme ça vaut la peine. Et ayons en perspective l'amour de Jésus par rapport à ça. Ce n'est pas confesser pour après se faire claquer les doigts et puis dire « ok, tu ne feras plus ça ». Non, c'est cette idée que Jésus nous accepte dans nos souffrances. Si on reconnaît qu'on a besoin de lui. Est-ce que nous sommes pauvres dans notre cœur? Est-ce que nous reconnaissons que nous avons humblement besoin de Dieu?
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.